Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Bienvenue sur la route inconnue, kilomètre 2. La route inconnue, je le dis pour les nouveaux, s'il y en a, eh bien c'est le magazine bimensuel que votre radio consacre à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. La route inconnue, je tiens à le souligner, bénéficie grandement du soutien de l'incontournable revue de poésie Décharge. Au menu du jour, un poète et son livre, c'est la coutume et elle est bonne. Aujourd'hui, seul le bleu reste de Samael Steiner, après quoi vous retrouverez eh bien, les chroniqueurs de la quinzaine, aujourd'hui Cécile Guivarch, Claude Verset et Patrick Jokel. J'espère que l'heure qui va suivre vous donnera toute satisfaction. Si ce n'était pas le cas, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'écrivant vos suggestions pour la prochaine fois. Mon adresse mail est la suivante, christophe.jubien@radiograndciel.fr. Il s'appelle Samael Steiner, il est poète, homme de théâtre et vient de publier Seul le bleu reste aux éditions Citron Gare. Voilà un livre dense, rythmé, généreux et fraternel dont je vous donnerai quelques extraits tout à l'heure. Mais avant cela, faisons connaissance avec son auteur. Samael Steiner, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes poète, mais vous écrivez aussi pour le théâtre, un monde pour lequel vous avez été formé à l'ENSAT de Lyon en qualité d'éclairagiste. Vous avez ensuite travaillé aux côtés d'André Benedetto, auteur et metteur en scène de théâtre, mais aussi poète, il ne faut pas l'oublier. Votre livre lui est dédié, c'est dire si cet homme a compté pour vous. Qu'avez-vous appris à son contact?
Alors, c'est difficile à résumer parce que j'ai vraiment appris énormément après être passé par une licence d'art du spectacle à la fac. J'ai fait cette école à Lyon pour apprendre le métier d'éclairagiste, qui consiste donc à travailler sur la lumière pour les spectacles. Et j'ai assez vite contacté André Benedetto, dont j'avais lu pas mal, mais que je n'espérais pas rencontrer. C'était souvent quand quelqu'un est très important pour soi, on a envie de le rencontrer, mais on se dit que sans doute on ne le rencontrera pas ou pas tout de suite. Et étant à Lyon et assez proche d'Avignon, où il était, du coup je l'ai contacté et on a commencé à travailler ensemble. D'abord en ma qualité d'assistant pour la lumière, puisqu'il faisait beaucoup ses lumières lui-même. Et évidemment, c'était un peu comme un cheval de Troie, puisque dans l'éclairagiste, il y avait le poète qui était là aussi. Et du coup, on a très vite beaucoup discuté. Il m'a beaucoup transmis sur plein de domaines, que ce soit effectivement d'abord ce que lui avait appris sur le rapport entre la lumière et le spectacle vivant et le théâtre. Ce que lui avait appris par rapport à l'écriture. Et puis après, sur un plan aussi plus politique, je me souviens de nombreuses promenades à l'intérieur d'Avignon où il me commentait en fait les décisions de la mairie, vraiment sur un axe extrêmement politique, en m'expliquant en quoi le fait d'avoir enlevé des bancs à cet endroit empêchait certaines personnes de venir dormir la nuit, en quoi le fait d'avoir reconstruit le parc faisait que d'un coup d'œil, le gardien voyait tout qu'on ne pouvait plus se cacher, etc. Donc voilà, c'est rapidement dit, je pourrais faire un tour d'horizon comme ça. Après, c'est vraiment dans plein de petits détails, dans plein de petites choses qui m'a appris des choses, en fait.
Ouais. Et bon, on voit que ce regard très aiguisé sur le réel, vous l'avez, on en parlera tout à l'heure. Alors, évidemment, on est toujours très heureux ici de voir des jeunes gens se lancer dans l'aventure poétique. Moi, je voudrais savoir comment cette aventure a commencé pour vous. Quel poète, quelle lecture vous y ont précipité?
Alors, ça a commencé par le théâtre, selon comment on voit la chose, ça a commencé par la poésie, c'est-à-dire que j'ai très très tôt commencé à écrire parce que j'étais fasciné par les histoires. Quand je dis très tôt, c'était à vers 7-8 ans, quand j'ai commencé à savoir manier les mots, à savoir, même si c'était au début très simple, mais en tout cas à pouvoir exprimer une histoire en l'écrivant, en la mettant sur papier. Donc c'était des histoires qui en général faisaient une page à quatre, j'écrivais très gros du coup à l'époque avec des craies de cire, donc ça faisait vraiment, c'était résumé, c'était presque un pitch en fait. Et ça a commencé comme ça, après ça a pris deux feuilles, trois feuilles, et avec cette envie de très vite que ce qui était écrit en fait, que la feuille ne soit qu'une transition et qu'on puisse en faire quelque chose. Et du coup, j'avais trois sœurs, j'avais des amis, j'avais des cousins. On a petit à petit inventé une espèce de troupe de théâtre qui en diverses occasions portait ce qui était à la fois du théâtre mais en même temps déjà très très poétique au sens comment dire, pas au sens où je porte un jugement de qualité sur ce qui était, mais ce qui n'était pas dramatique en tout cas, ce qui n'était pas au sens personnage, etc. Il y avait des figures qui portaient des histoires, des moments poétiques. Donc il y avait, voilà, c'est pour ça que je dis que ça a commencé à la fois par le théâtre et en même temps c'était déjà de la poésie au sens assez large. Et après, ça n'a cessé de continuer comme ça, c'est-à-dire dans un aller-retour permanent avec le théâtre, puisque c'est aussi un de mes lieux de travail par rapport à la lumière, mais il m'arrive aussi de faire de la scénographie ou de la vidéo. Du coup, tout ce travail esthétique, en fait, qui nourrit énormément aussi l'écriture. Et en même temps, ce que j'ai pu écrire pour le théâtre n'a jamais été stricto sensu du théâtre. Ça a toujours été une sorte de poème dramatique ou un espèce de chant qui peut être porté, un chant choral qui peut être porté par une ou plusieurs personnes. Mais il y avait quand même toujours cette dimension poétique qui voilà, malgré cette volonté toujours que ça soit oralisé, que ça puisse être mis en espace, parfois mis en scène, il y a toujours cette appartenance à la poésie qui demeure.
Ouais. Alors, vos futurs lecteurs pourront constater que vous écrivez vraiment loin d'une certaine tendance contemporaine qui privilégie l'intime, le minuscule ou l'autoportrait en vers, et vous aspirez, du moins l'avez-vous dit dans une interview, à une poésie politique. Je cherche un lyrisme qui entretienne avec le vivant une relation concrète, dites-vous. C'est important pour vous, cette ouverture au monde, oui.
Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours très difficile. J'ai la sensation que quand on veut exprimer quelque chose qui est plus qu'une idée, mais qui est vraiment un élan en quelques mots, comme c'est le cas de justement ce que j'avais dit et que vous venez de lire, ça peut paraître très vite conceptuel. Or, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, qui a été encore renforcé par la rencontre et le chemin parcouru côte à côte avec André Benedetto, avec d'autres aussi. J'ai travaillé aussi avec le metteur en scène franco-allemand ou germano-français, je sais pas comment il faut dire, Matthias Langhoff. Notamment, après, je peux évidemment pas citer tout le monde, mais il y a eu beaucoup de personnes comme ça, le cinéaste Lionel Soucaz aussi, dont le travail était et encore dans cet aller-retour entre soi et le monde, et du coup où le monde est toujours quelque chose de politisé. Et pour moi, ça a toujours été une chose très importante. D'une part, le lyrisme, c'est-à-dire aussi la revendication que une subjectivité peut s'exprimer tout en gardant une conscience politique des choses, tout en parlant à un ensemble, tout en essayant d'inclure un monde, et en même temps d'avoir cette dimension politique sans que jamais ça soit un tract, sans être dans quelque chose de trop frontal, de trop revendicatif, pour justement permettre ce que permet la poésie, c'est-à-dire cette route ou cette aventure tendue qui permet à chacune et chacun de finalement aussi pouvoir dialoguer à travers l'œuvre, à travers ce qui est proposé, avec le monde ou avec soi ou avec d'autres. Et voilà, je sais que, du coup, pour aussi répondre à la question d'avant à laquelle j'ai répondu qu'à moitié, c'est un des poètes, évidemment, presque devenu un classique, qui m'a beaucoup guidé aussi là-dedans, c'est Maïakovski.
Alors, une poésie politique porteuse d'un message, par définition, le souci d'atteindre la multitude, puisqu'elle ambitionne, sinon de modifier le réel, du moins le secouer. Et c'est peut-être pour cela, non, que vous vous attachez à faire monter la poésie sur scène pour la dire à voix haute.
Oui, alors tout à fait, c'est effectivement une des raisons. Après, c'est aussi que je trouve que la poésie est agréable à être entendue. En tout cas, moi, quand j'écris, je travaille beaucoup à voix haute et que je trouve que c'est vraiment pas la même réception quand on entend les choses, qu'on a aussi du coup affaire à une voix, à un corps, et que du coup cette voix et ce corps ramènent aussi quelque chose de concret. C'est là aussi toujours ce rapport au théâtre et à cette quête d'être dans le présent, d'être dans quelque chose de concret et de donner des pieds à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit et de pas rester dans quelque chose qui voguerait entre toutes les possibilités mais qui du coup est toujours difficile à atteindre, à saisir. Donc d'avoir en fait quelque chose qui à la fois peut demeurer une utopie incroyable et qui en même temps garde une dimension matérialiste,
physique,
concrète,
ouais,
directe. Ouais. Et ça me semble hyper important. Avec aussi le fait que quand on écrit, ben le livre échappe. Et du coup, le fait de donner des lectures, quand c'est moi qui ai la chance de lire, je peux aussi percevoir ce qui se passe en retour, avoir un retour d'émotion de ce qui est en train de se passer et du coup d'avoir un contact aussi privilégié avec les gens qui écoutent.
Avec le public, oui. Alors, parlons de votre livre « Seul le bleu reste », publié aux éditions Citron Gare, je le rappelle. C'est un livre qui est vraiment conforme à ce que vous exigez du poète, une ouverture aux réalités contemporaines, souvent les plus cruelles, hein, la guerre par exemple. Je pense notamment au poème de la page 42, « Le danseur de la place Maïdan », qui fait écho, du moins à sa chute, à la fin du poème, au « Dormeur du Val » d'Arthur Rimbaud.
Oui, exactement. Ouais. Il y a même des morceaux à l'intérieur du poème
ouais.
qui sont piqués à Rimbaud et remis dedans quelques petits bouts. Ouais.
Ouais. Et donc, voilà, l'histoire, ce qui se passe de l'autre côté du monde, c'est aussi important que la poignée de main du voisin.
Alors, effectivement, pour moi, c'est vraiment... quelque chose qui est très très important, même au-delà de mon activité d'écriture dans ma vie personnelle et dans ma vie militante, puisque je suis aussi militant politique syndical et je milite dans différentes associations. Et du coup, c'est quelque chose qui au quotidien est vraiment très important, cette notion de savoir à chaque jour, chaque moment, qu'en fait il n'y a qu'un monde et que finalement les frontières, etc., sont des décisions, appartiennent à l'histoire, sont là pour des raisons politiques, mais que puisqu'il n'y a qu'un monde, effectivement, c'est à chacun d'imposer ses hiérarchies. Et que du coup, les hiérarchies sont politiques, c'est-à-dire à un moment de dire, bah, pour moi, cette chose-là est plus importante qu'une autre, ou etc. Du coup, pour moi, effectivement, il y a cette chose-là dans mon écriture, ou en tout cas, je ne sais pas si elle transparaît, mais en tout cas, dans le moment d'écrire, elle est présente avec moi, que parfois, comme un télescopage, se retrouve sur le même plan, effectivement, quelque chose qui se passe... complètement ailleurs, que ça ouais. soit au Chiapas, des résistants, des résistantes quelque part, en même temps quelque chose qui peut se passer au moment où j'écris sur la place devant ma fenêtre, que ce soit pas un chien qui passe, une personne qui apostrophe une autre, et du coup il y a effectivement ce travail de collage qui, je pense, transparaît un peu, mais qui en tout cas là où j'en suis sûr, c'est qu'il m'accompagne chaque jour à l'intérieur de l'écriture.
Alors souvent, vos poèmes s'adressent à quelqu'un en particulier. Il y a un poème pour Chokri Belaïd, un poème pour Robin, il y a même une lettre pour Gaza. Là, il y a encore vraiment la volonté de tisser des liens fraternels, pas avec le monde, hein, avec des visages, avec des noms.
Oui, ça c'est... Il y a une phrase qui m'avait... Il y a une phrase qui m'a marqué, je pense... Enfin, définitivement, en tout cas jusqu'à présent et en tout cas pour les années qui viennent, c'est la phrase d'André Breton qui disait, je vais peut-être écorcher un peu, mais qui disait à peu de choses près, j'écris pour rencontrer des gens ou rencontrer des personnes. Et cette phrase, elle m'a marqué à la fois dans l'acception très concrète, c'est-à-dire effectivement ben, de pouvoir rencontrer des gens autour de soi, dans son pays, même peut-être ailleurs, et en même temps dans la dimension aussi symbolique qu'elle peut avoir, effectivement de tenter des fraternités là où parfois ce n'est plus possible, comme pour le poème de solidarité avec Chokri Belaïd, puisqu'il a été assassiné, donc au moment où j'écrivais le texte, il venait d'être assassiné. Mais la poésie, à cette chose-là, permet de créer des fraternités comme ça, comme elle permet de créer des réparations symboliques. Je sais que pour cette part-là, le théâtre d'Armangati ou la poésie de Serge Peille ont été et sont toujours des choses très fortes pour moi dans cette capacité de recréer des mondes, de réinventer, de même parfois faire trébucher l'histoire pour lui faire prendre une autre direction, un autre virage, même si dans la réalité, ça ne suit pas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très fort cette capacité à créer des mondes aussi, même si pour moi elle doit rester toujours en tension avec la réalité qui nous entoure, avec l'histoire qui nous traverse, etc.
Samuel Steiner, un grand merci pour le temps que vous avez pris à répondre à nos questions et merci surtout pour votre beau livre « Seul le bleu reste » publié aux éditions Citron Gare dirigé par l'excellent Patrice Maltaverne. Ce livre, eh bien, vous pouvez vous le procurer en écrivant à l'adresse suivante Association Le Citron Gare, 12 rue de l'Abbaye, 57 000 Metz. En attendant, eh bien, je vous propose une petite lecture apéritive. À tout de suite.
Eh ben, merci beaucoup à vous.
Nous marchons sur cette route écarlate, éclatée comme un oued. Nous marchons, Hakim et moi, d'un pas égal. Pas un ne devance l'autre. Nous marchons ensemble. Le chemin écaillé est le miroir de nos visages. Les pierres sont le miroir de nos dents. Et pour mirer nos yeux et pour nous perdre, nous avons l'un et l'autre, l'un pour l'autre, d'autres yeux. Les cerisiers sont lourds, comme les amoureux surpris par l'orage. Je connais une femme sur la route, infatigable, qui pèse les morts, lutte jusqu'à ce que la mer tombe, et c'est pour elle que je dis, maintenant, les cerisiers sont lourds, comme les amoureux surpris par l'orage. Nous essaierons de ne pas rester jeunes, une fois pour toutes, mais de vieillir au fil du temps, de ne pas garder, comme un dû, nos mains blanches inconscientes, nos blanches inconsciences, mais d'entrer dans la matière avec des mains désireuses de saisir et d'apostropher. Nous tâcherons de ne pas garder la peau intacte et les yeux perçants, mais une peau creusée comme une mémoire transparente affichée sur nos toits, au-dessus de nos têtes. Pour que ce texte soit dit par Samuel. Mon frère, ton bras est ouvert, là, au milieu de la place, et la ville nous regarde saigner, toi, moi le dernier œil pour te voir formuler une parole. Ton bras est ouvert tout le long de la rue, les passants longent tes veines pour rejoindre le fleuve. Il n'y a plus de lune mais un pain que se partagent les oiseaux. Nous allons ensemble le long de la ville et à travers. Avant l'aube, frère, nous en serons le fleuve et tes yeux borderont la colline. Nous allons ensemble avec de grandes chemises blanches comme les chemins. Les rues se télescopent, il en surgit de nouvelles. Les impasses s'ouvrent et tu me parles des papillons de nuit qui te font frissonner lorsqu'ils te croisent. Ton bras est ouvert au milieu de la place qui voudrait paralyser la ville, faire sonner les cloches pour autre chose. Nous allons ensemble, la rue n'est plus bordée de portes, mais de larges entailles par lesquels on peut se glisser et apparaître ailleurs et autrement. De grandes guitaristes gitanes ont pris le pouvoir sur les balcons et aux fenêtres. Il n'y a plus de lune, mais un pain que se partagent les oiseaux. Ton bras est ouvert, au milieu de la place, les rues guettent notre marche, avec derrière la pupille des pierres au fond des yeux et la rétine, ce tambour d'une autre course est couverte de sel. Frère, ton sang se vide, ta course freine, tes mots ont congédié les méharis et les souffles rauques et sauvages, guépards, pumas et panthères. Foudroyé à l'orée de la nuit, je te regarde. Je ne sais plus rouler mes airs. Tu es ce qui donne au chemin l'envie d'être allé, ce qui rend le vent inoffensif et le charge de tendresse. Maintenant que tu ne vas plus m'appeler, c'est une forêt que je perds, un pays qui brûle, sans illuminer aucune de mes nuits, sans crever aucun silence. Nous allons ensemble, le long de la ville et à travers. Avant l'aube, frère, nous en serons le fleuve et tes yeux borderont la colline. Ton bras est ouvert au milieu de la place et ce sont toutes les villes traversées qui te quittent, rue après rue, porte après porte, comme une mémoire persédant. Lisboa, Marmara, Santiago, Santa Fe, Granada, Corfou, Marseille, Kalamata, Valparaiso. Il n'y a bientôt plus qu'un infatigable vieillard, orphelin de ville, de source, de pain, avec simplement la route qui reste. Le face-à-face dure jusqu'à épuisement de toutes les résonances. Puis la route se défait parmi les chats errants et la bruyère des lisières. L'homme n'a plus qu'un instant pour disparaître. Nous marchons dans un champ sans limite visible, pentu. En haut de la pente, une forêt de grands résineux, noirs à force d'être. Il y a au loin une foule, des voix mêlées nous arrivent. Je dis plus loin, sans doute est-ce après les arbres, derrière les arbres, de l'autre côté de la pente. L'ami qui m'accompagne a une chevelure noire, longue et profonde, dans laquelle je me plonge jusqu'aux épaules, à plusieurs reprises, disparaît du monde, me soustrait à l'invincible et omniscient soleil, sans cesser d'avancer, toujours, disparaître et revenir. Nous marchons vers les voies, vers l'autre côté de la pente. J'ai appris ta mort. J'ai appris ta mort, mon ami, et tu es entré par le jardin dans ton habit de fête. Tu passes les nuits assis au pied de mon lit. Tu as pris la place du chat siffleur. Chaque matin depuis ce jour, nous nous lavons ensemble. Puis nous allons manger quelques fruits et boire le grand bol de café. Debout sur le pas de la porte, nous fumons deux ou trois cigarettes et nous nous mettons en route. Nous traversons la ville aux couleurs pleines en ce début du jour, avant que la pleine lumière les ait séparées toutes. Dans le bleu des voitures et des vitrines, il y a encore du rouge. Nous quittons le centre, puis une à une les périphéries, les banlieues, gares de triage, zones industrielles. Par le pont, nous enjambons le fleuve et nous entrons dans le désert. Nous avons laissé derrière nous les arbres. Même les chiens errants ont fini par rejoindre le bruit lointain de la ville pour s'y plonger et s'y dissoudre. Le soleil, qui se lève à peine, brûle nos bouches et nous savons que le vent restera tout le jour immobile.
La ville derrière nous et le pays tout entier ne sont plus qu'une phrase lointaine. Chaque jour, nous allons un peu plus loin, un peu plus avant dans le désert, puis nous nous arrêtons, sans avoir besoin de se dire aucune parole, nous nous regardons, le temps de fixer au fond de nos mémoires le corps de l'autre, avec sa stature, toutes ses couleurs, toutes ses odeurs, puis nous faisons chemin retour. Nous traversons dans l'autre sens le fleuve, les zones extérieures, périphériques, puis les banlieues. Nous revenons au bruit quotidien. Ainsi commence et s'achève chaque journée depuis que j'ai appris ta mort, mon ami. Nous avançons toujours plus loin dans le désert et nos regards deviennent chaque jour plus urgents. Mais je sais que d'ici peu, nous mangerons ensemble quelques fruits et après avoir traversé la ville et ses périphéries, après avoir laissé par-delà nos épaules le fleuve et les chiens errants, nous avancerons plus loin encore dans le désert. Lorsque nous aurons perdu de vue la valeur des heures et des kilomètres, nous nous arrêterons et, sans avoir besoin de se dire aucune parole, nous nous regarderons longuement. Mais ce jour-là, mon ami, je rentrerai seul. Je retraverserai dans l'autre sens le fleuve, les anneaux périphériques, les abords de la ville, jusqu'au jardin devant la maison. À la nuit tombée, je rentrerai chez moi. J'espère alors que pour m'accueillir, le vent fera trembler de toutes ses dents le palmier du jardin voisin. Lettre pour Gaza. Le potager que nous avions défriché, labouré et planté sur les hauteurs de la ville, tu te souviens? Au soir, j'avais d'autres bras, j'avais d'autres mains. M m'avait ouvert en grand l'une des fenêtres de l'hôpital. J'étais alité pour 2 mois. Il m'avait dit « Regarde, loin ». Chaque point est un morceau de terre sur lequel une femme ou un homme avance sans qu'il te soit possible de les voir. Et regarde entre ces points d'autres points qui bougent. Ce sont des oiseaux. Chaque jour, j'ai demandé qu'on m'ouvre la fenêtre. En décembre, alors que je regagnais ma petite ville au nord, j'avais d'autres yeux. Et puis, A et moi avons passé des jours entiers et des nuits à l'abri des lumières, à se connaître mieux, à vivre intensément. En nous quittant, certains soirs, nous avions d'autres bouches, d'autres gorges. Nous emmenions d'hallucinantes beautés. Les corps n'avaient d'autres limites que les villes et les jours. Maintenant, je regarde à la ronde les lumières, une maison dressée, d'autres là, des bruits, la ville, des chiens qui disparaissent du sommet de la crête jusque de l'autre côté, sans autre signe. Où donc est l'ombre des figuiers? La nuit ne tombera plus, trop de lumière dans nos têtes. Les serpents de feu occupent nos spirales, tout est comble. Où sont les morts qui se tenaient sous notre table, à l'abri de la lumière? Où sont les femmes et les hommes assis autour des tables, debout dans les rues? Certains sont morts, certains sont menacés d'une autre mort, regardent la poussière, se taisent, perdent leur couleur, perdent une à une les lignes qui, toutes ensemble, apportent épaisseur et souplesse, jusqu'à pouvoir passer sans courber la tête, sans rentrer le ventre, entre la lame et le manche du couteau. Si un jour je n'ai plus que 2 bras, 2 jambes, une bouche, 2 yeux, 1 nez, si vient ce jour, ce jour-là, je ne serai plus un homme. Je serai l'image que ceux qui veulent ma mort se font d'un homme. Un corps anatomique, sans imagination et sans aspiration contraire. Il suffira alors d'un vent de petite taille pour me renverser et me laisser au sol. Je dois te dire encore, les lames du soleil jouent avec les poules noires au pied du mur. Je veux vivre. Au coin des nuits, je vois encore des arbres blancs et des fruits. Je veux vivre. Voilà, c'était quelques extraits de ce très beau livre de Samaël Steiner qui est orné d'estampes de Judith Bordas. Seul le bleu reste aux éditions Le Citron Gare. Vous n'avez qu'à taper Le Citron Gare sur votre moteur de recherche et vous aurez toutes les informations concernant cette maison d'édition et concernant le moyen de se procurer ce beau livre de Samaël Steiner. On écoute un peu de musique et nous retrouvons ensuite la chronique mensuelle de notre ami poète Cécile Guivarch.
Not as first, but where you belong, where many old spirits dance her song. Piece of paper, a devil's lie. For this you let my people die, to return our land, our lines. Through the earth, the sky will pay the price. Through the earth, the sky, the sober price. Yes. Piece of paper, a devil's lie. For this you let my people die, to return our land, our lives. Through the earth, the sky will pay the price. Through the earth, the sky will sober price. Oh,
C'était pour un fait Della Blackman Pick and Shook. Je vous propose à présent d'écouter la chronique mensuelle de notre amie poète Cécile Guivarche, qui par ailleurs anime, je vous le rappelle, un excellent site ressources pour la poésie contemporaine, Terre à Ciel.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc là, j'ai eu un gros coup de cœur pour un poète espagnol de la nouvelle génération. Il s'agit de Javier Vicedo Alos, qui est né en 1985. Il a déjà reçu de nombreuses distinctions en Espagne. Et pour ma part, j'ai été conquise par ce qui fonde sa poésie. C'est une poésie exigeante, moderne et humaine. À le lire, on pense tour à tour à Roberto Juaros, à Antonio Porcia ou encore à José Ángel Valente. J'ai pu lire ce poète grâce à la traduction d'Edouard Ponce. Il a rassemblé dans une anthologie qui s'appelle « Insinuations sur fond de pluie » de divers poèmes, extraits de divers recueils de Javier Vicedo Alos. Alors cette anthologie est parue aux éditions Fond d'encre. Alors c'est une poésie qui invite à la réflexion, à la philosophie de vivre, au sens de notre présence au monde. Le poète s'intéresse au peu que nous sommes sur cette terre et comment nous la traversons pour en disparaître. Il écrit par exemple « On est sans parole et c'est avec toutes les paroles brisées que nous partons ». C'est une poésie du « qui suis-je » dans un monde où chaque homme est à la fois singulier et banal. Javier Vicedo Alos laisse transparaître dans ses poèmes une grande humanité, de la joie en même temps que de l'étonnement de vivre. Il évoque également la fragilité d'avancer dans ce monde, comme celle des gestes et des paroles. C'est une poésie dans laquelle je suis entrée, portée par les énigmes qu'elle ne prétend pas résoudre et par des questions métaphysiques de notre présence sur Terre. C'est sa propre vision du monde que le poète révèle et pourtant c'est aussi la mienne, c'est peut-être la vôtre. Javier Vicedo Alos écrit face au monde d'une manière globale mais l'aborde aussi du point de vue de la maison, de la rue. Il paraît pourtant si simple d'être un homme, dit-il, alors que l'univers est une main qui tremble seule et que le poids de l'air nous rend de plus en plus petits. Le poète invite à ouvrir la main, à sauter vers le monde, à s'unir avec le monde, certainement en pensant qu'il sera meilleur. Il écrit par exemple « Que regardes-tu par-delà la fenêtre? Le monde ou le monde que tu voudrais ?» Javier Vicedo Alos connaît la distance qu'ont les hommes entre eux et évoque la question de l'être avec maîtrise. Il écrit « Je vis dans mon corps comme je pourrais vivre dans tout autre contenant. » Toute sa poésie se résume par quelques mots contenus dans ses poèmes. Il écrit par exemple « Quand j'écris, je ne parle pas ou ne le voudrais pas, je voudrais seulement répondre avec mon émerveillement au mystère brûlant de l'univers. » Donc le titre « Insinuations sur fond de pluie » justifie tout à fait le travail de Javier Vicedo Alos. Ce sont des poèmes, ce sont des insinuations en fait sur le sens de vivre et qui explorent cette vérité à habiter le monde. Donc un grand merci à Edouard Ponce pour les traductions et pour nous avoir fait entrer dans l'univers de ce poète espagnol. Il l'a bien compris et vous aussi peut-être. Javier Vicedo Alos est une voix à découvrir absolument. Je vous remercie et à très bientôt.
À dans 4 semaines, très exactement, chère Cécile. Sans plus tarder, je vous propose de prendre connaissance du coup de cœur du mois de notre ami Claude Verset, poète lui aussi, bien sûr, on ne le présente plus, mais aussi chroniqueur sur la revue des charges depuis de fort longues années déjà.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Christophe. Eh bien, pour cette chronique de rentrée, je mettrai à l'honneur un poète qu'on peut considérer comme un classique de la poésie contemporaine. Poète connu, du moins son nom, figure-t-il dans la plupart des anthologies du XXe siècle, mais dont on réduit l'œuvre en général à sens plastique et aux écrits de la même veine des années 40, prolongeant cela l'admiration avec laquelle ses livres furent alors accueillis en France. On n'avait rien entendu de si fort depuis l'Autréamont, dira André Breton. Il parlait, je vous parle, et peut-être vous l'aurez deviné, de Malcolm de Chazal, le poète de l'île Maurice. Île que, sa vie durant, malgré les sollicitations du milieu parisien, des surréalistes en particulier, il refusa de quitter. Et rappelons les dates de Malcolm de Chazal, 1902-1981. Si j'évoque aujourd'hui Malcolm de Chazal, c'est qu'il fait, contre toute attente, l'actualité grâce à l'initiative de la collection Poepsie, qui publie de cet auteur un livre inédit, Humour Rose. Et on comprend facilement, vu l'époque de son écriture, entre 1940 et 1949, qu'un tel titre n'a pu être donné qu'en référence à l'humour noir, cher à André Breton. L'humour rose, selon Malcolm de Chazal, est l'humour des enfants, celui que l'on retrouve chez les amants par la moquerie amoureuse, une douce taquinerie montant jusqu'à la caresse de l'âme. Là, je cite. Dans les faits, ce sont de brefs poèmes, des semblants de définitions dont on peut se demander si elles n'ont pas été écrites comme des cadavres exquis sur le modèle sujet plus verbe, verbe souvent le verbe être d'ailleurs, suivi d'un attribut ou d'un complément en rupture, inattendu, légèrement farfelu, les meilleurs allant jusqu'au non-sens, semblant sortir des rythmes d'une nurserie anglaise. Eh bien, parmi les plus simples, à la structure évidente, celui-ci, un brouillard est un parapluie sans baleine. Ou encore, l'ombre est la valise de l'espace. Et plus sophistiqué déjà, le maître s'étonna qu'on ne comprenait pas sa mesure. Ou encore, le bleu pâli de bonheur, c'était le printemps. Les plus mémorables de ces sentences poèmes sont évidemment ceux dont on ne remarque pas le procédé. Alors c'est une poésie verticale, au vers maigre, un mot, souvent, pour faire le vers, comme j'essaie de le faire entendre par ma lecture. Le coq retire son râtelier quand il picore et le remet dans son cri. Elle revint avec le miel et laissa la lune. Elle revint avec le miel et laissa la lune. Attrait supplémentaire, le livre est présenté, comme tous ceux de la collection Poepsie, dans un emboîtage, ici d'un rouge de cochon de sucre, et qui lui donne l'aspect d'un livre de prix en dépit d'un coût des plus modestes. 12 euros chez Erès, dans la collection Poepsie. Allez, bonne lecture, et cultivez l'humour, rose ou noir, selon votre tempérament, et rendez-vous au mois prochain.
Nous serons évidemment au rendez-vous, cher Claude. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission. Je crois que nous avons droit encore quelques minutes et nous allons les passer en compagnie de Patrick Jokel, notre ami poète de Mouans-Sartoux, c'est près de Nice, entre montagne et mer. Que nous réserve Patrick? Que va-t-il nous sortir de sa besace à poème? Nous allons le savoir tout de suite. Il ne me reste plus, quant à moi, qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée à l'écoute de nos programmes, bien évidemment. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle édition de La Route Inconnue.
Eh bien, bonjour, nous voilà repartis pour une nouvelle saison de lecture et pour la commencer, je voudrais vous parler d'un ouvrage publié chez Soc et Foc au printemps 2016. Il s'agit d'un ouvrage écrit par Lise Lundy, illustré par Clo. Clo est une des hirondelles de Durcé, pour ceux qui la connaissent, et en dehors d'aider à la préparation et à la réalisation de ce printemps poétique historique à présent, elle est aussi artiste. Le titre, BUR, dentelle de mémoire. Embarquement immédiat pour une île de fleuve, une île sur la Loire. Des mots posés sur le papier comme des empreintes d'oiseaux sur le sable des plages. des simples, juste pour saisir une respiration ou un regard. Tintement de trois notes, appel aux trois silences. Parfois de courtes phrases au présent, des instants, un vol d'oiseau, comme la lumière infiltre les formes fragiles. Beaucoup de légèreté. On se promène dans ce livre géographie comme en vacances. Disponible, reposé, léger. Un livre comme un moment de pause, de ressourcement. Les images de Clos, lumineuses, accompagnent avec grâce les mots. L'ensemble vibre de silence et de contemplation. C'est apaisant. Le sous-titre, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, BUR, dentelle de mémoire. Je vais vous lire les trois ou quatre premières pages. À l'aube d'un jour inespéré, émergence d'une île innocentée de nuit. Le silence mousse sur l'âme du rocher. Les racines de l'arbre ont épousé la pierre. Lumière apaisante de l'arche entrouverte, ombre douce aux larmes du doute. La nef retient l'écho de la prière d'un roi, mirage d'une voile de chanvre. Et je ne voudrais pas quitter cette chronique sans lire quelques extraits de Michel Butor dans Verger d'enfance, un ouvrage qui avait été publié par L'Opaïs, un éditeur à Draguignan, sous la direction de Chantal Miglioli. Et Michel Butor avait offert comme ça à cet éditeur des petits distiques et c'est une promenade dans un verger d'enfance. L'effervescence des mouches dans l'éventail des prunes. Un grain de beauté sur la joue de la pomme. Le lait qui perle au sein des figues. Le parfum des fraises, un sourire velouté. Une poupée nonchalante dans son fauteuil de rotin. Les cloches des vaches dialoguent avec celles des églises. Un méridien croise un parallèle sur la pointe d'une étamine. Voilà, je voudrais vous laisser sur ce croisement géographique, humain, entre un méridien et une parallèle. Et la pointe d'une étamine. Et je vous dis au mois prochain.
I woke up this morning, baby, feeling all round for my shoes. Honey, now you know about that, baby, I got them all. Got them all walking blue. I woke up in the morning, baby, when I felt around for my shoes. Walking blues. Well, you know, made it seem like I was, and I was saying, just like days. I hope my little woman, she got to try to change her low down ways. I hope my baby, she wanna change her lowdown ways.
everything I tell my baby, you know. My little woman understands just what I say. If I have to ride the blind, you know I'm sick and disgusted, baby, and I'm so doggone dissatisfied. Yes, I'm leaving here this morning, baby. Mama, you know if I have to ride on the blind. Got to go to Memphis, baby, to have my hair bone, boy. You know I done laid around, yeah, Clarksdale, baby, until my little old hair bone is spoiled. I said I got to go to Memphis, baby. Mom and I, honey, I got to have my hair bone, boy. I leave my lonesome home. I woke up this morning, baby, you know all I had, everything. Everything I had was gone. I said I woke up this morning, baby, yeah. I wanted everything I had, everything I had was gone. Mississippi, baby, she say she gone. I get my business fixed. I said it.
gypsy woman over Chula, Mississippi. Baby, now you know what she say. She gon' get my business fixed. I'm a gypsy and she done stopped her in her tracks. I woke up this morning, baby, feeling all wrong. For my shoes, you know that I had them, oh, I had them. Walking blue. I said, I woke up this morning, baby, and I was feeling all around for my. Yes, I am. I am walking blue.